Ding, 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 ding,
donc ce
ding.
Matin, on revient dans l'évangile de Jean. On a fait une petite pause pendant quelques semaines. C'est à moi, ça.
Ah,
c'est mon père qui trouve ça marrant. Donc l'évangile de Jean, on en est à la fin du chapitre 6, versets 67 à 71. Et ce matin, le titre, c'est Jésus choisit le diable. Pourquoi
c'est un mot qu'il ne faut pas prononcer.
Pourquoi Jésus choisirait le diable? Est-ce qu'il a vraiment choisi le diable? Pourquoi ces versets impliqueraient que Jésus avait choisi le diable? Ce sont les questions que nous allons aborder ce matin. La dernière fois que nous étions dans cet évangile, il me semble que c'était le premier dimanche du mois de mai, du mois d'avril. Nous avions vu certaines personnes s'offenser à cause de ce que disait Jésus. Ils étaient tellement offensés qu'au verset 66, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Et alors que plusieurs de ses disciples se retiraient pour ne plus suivre Jésus, Jésus se tourne vers les douze et au verset 67, Jésus donc dit aux douze, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Vous savez que c'est la première fois qu'on voit l'expression « les douze » dans l'évangile de Jean. Il se peut qu'il emploie ce terme maintenant parce que il ne restait que les douze. C'est possible. Ou alors, il s'était retiré en petit comité pour un debriefing. Et Jésus leur demande, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et dans le grec, c'est une question qui implique une réponse négative. La grammaire grecque permet de différencier entre une question qui s'attend à une réponse positive, une question qui s'attend à une réponse négative, et une question dont la réponse est libre. Et ici, c'est une question qui attend une réponse négative. Donc, quelle est la réponse des disciples? Au verset 68, Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Alors forcément, c'est Simon-Pierre qui répond, celui qui est impulsif, brusque, c'est un peu le porte-parole des douze. Et sa réponse, c'est « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Pour moi, c'est la réponse de quelqu'un qui ne trouve plus satisfaction dans tout ce que ce monde peut offrir. C'est la réponse de quelqu'un qui a trouvé le trésor caché dont il est question dans Matthieu 13, 44. C'est la réponse de quelqu'un qui a trouvé la perle de grand prix dont il est question dans Matthieu 13, 46.
Grand prix.
La perle de grand prix, rien à voir avec les motos.
Je ne comprends pas les
motos. Les formules 1.
Cher, quoi.
Ah, prix. Mm-mm. Valeur.
Oui.
Je n'étais pas là. Il y a beaucoup de gens dans les ordres, moi. Ils sont insatisfaits, quoi qu'on croise.
Et beaucoup de gens, il y a l'évangile de Jean, il y a les trois épîtres. La réponse de Simon-Pierre, c'est où pourrait-on aller pour recevoir la vie éternelle? Il dit, à qui irions-nous? Quel enseignant? Quel savant? Quel gourou? Quel dirigeant? Quel orateur pourrait-on écouter qui nous donnerait ce que tu nous donnes? Simon-Pierre demande, où pourrions-nous aller? Alors, certains pourraient répondre, on peut aller à la plage, on peut aller à la foire de Chantonnay, si vous n'y êtes pas allé, c'est...
Oui, jusqu'à ce soir.
Il y a de belles tempes. On peut aller à une cousinade. On peut aller au rassemblement de voitures anciennes.
On peut aller en Espagne.
On peut aller flâner aux flâneries. On peut aller chez un pote, on peut aller sur Internet, on peut aller sur la Xbox. Il y a tellement d'autres endroits où on peut aller pour ne pas venir à l'église. Mais comme dit Simon-Pierre, Jésus a les paroles de la vie éternelle. Simon-Pierre sait que tout autre endroit le laisserait spirituellement en faillite. Il a vu ce que ce monde peut offrir. Donc Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. » C'est ce qui a frappé Pierre. Ce n'est pas les miracles. Ce n'est pas les guérisons qui avaient frappé Pierre. Ce sont les paroles de Jésus, ces paroles de la vie éternelle. N'acceptez pas un autre gourou ou un autre leader qui prétend que la vie éternelle peut se trouver en dehors des paroles de Jésus. Et qu'a-t-il dit d'autre, ce Simon-Pierre ? Lisons le verset 69. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Ce verset commence avec « et ». Donc non seulement tu as les paroles de la vie éternelle, mais en plus nous avons cru. Et non seulement ça, mais en plus nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Nous avons cru et nous avons connu.
Je suis au
chapitre 6, verset 69.
Nous avons mis toute notre confiance en toi.
Nous avons cru.
Nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons que tu es le Saint envoyé de Dieu.
Commence par nous.
Ah mais oui, c'est ça.
Oui, mais là...
Oui,
Christ. Et qui insiste.
Ah bah oui, il n'y est pas là.
Voilà,
oui, là, j'ai pas le démon non plus.
Le problème, c'est... Ça, c'est le problème quand on ne lit pas le grec d'origine. Et dans le grec, ces deux verbes, croire et connaître, sont conjugués au temps parfait. Ceux qui sont moins calés en grammaire que Anne Biget, le parfait combine deux idées clés. Moi, c'est Elmé. Hein. Moi aussi, c'est Elmé.
Ah, d'accord.
Non, ben, okay. Le problème, c'est qu'un nom de famille ne suit pas forcément les règles de prononciation.
D'accord.
Bref. Le temps parfait combine deux idées clés. Premièrement, l'action est entièrement terminée. Les actions de croire et connaître sont dans le passé. Mais les conséquences ou l'état résultant de cette action sont toujours en vigueur au moment de la parole. Donc le fait de croire et de connaître a un impact au présent. Leurs vies ont été changées. Donc face à cette question de Jésus dans Jean 6, 67, et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller, Pierre est en train de dire non, nous restons. Nous n'avons plus le choix. Nous avons cru et nous avons connu. En fait, la plupart des gens, ils veulent connaître avant de croire. Mais avec Dieu, il faut croire avant de connaître. Ce n'est que par la foi que nous puissions connaître. Dans Hébreux, chapitre 11, verset 1, on lit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et plus loin, au verset 6, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, est-ce que vous croyez, comme Pierre, que Jésus seul a les paroles de la vie éternelle? Ou est-ce que vous avez encore des doutes?
Le fait de côtoyer Jésus en présentiel, si on peut dire, de bénéficier de tout son charisme et de tout son aura, doit donner un avantage à Pierre. Que j'imagine que quand tu rencontres Jésus...
Oui, mais ans, il a pas l'avantage de 2000 ans de théologie sur lequel bâtir ses opinions.
Oui, à l'époque, on pouvait prendre que croire que c'était un prophète comme un autre.
Mais oui. De l'avoir face à soi, c'est...
ça doit dégager quelque chose. Même si dans Chosen, ça n'a rien dégagé du tout, mais ça, c'est un autre débat.
Mais c'est pas une excuse. C'est pas une
Donc,
excuse.
Non. Est-ce que vous croyez, comme Pierre, que Jésus seul a les paroles de la vie éternelle, ou est-ce que vous avez encore des doutes? Une fois que vous avez cru et connu comme Pierre, peu importe ce que vous disent les autres sur ce qu'ils ont vu sur Internet, sur RTL9 ou BFM à propos de Jésus, votre foi demeure inébranlable. Tout comme les 12 disciples qui ont vu plusieurs disciples se retirer pour ne plus suivre Jésus. Ils sont restés. Donc comment Jésus réagit-il à la réponse de Pierre? Au verset 70, Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon ?» J'aime bien ce verset, c'est un de mes versets préférés dans la Bible.
Oui, il savait déjà que Judas était pas top, quoi.
Si vous voulez vraiment savoir, j'ai 31102 versets préférés dans la Bible. Vous devriez les lire. Mais dans ce verset, Jésus corrige la réponse de Pierre avec grâce et amour. Relisons ce que Pierre nous a dit au verset précédent. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. C'est bien, c'est une belle déclaration. Nous avons cru, nous avons connu. Et Jésus le remet en place. Verset 70, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi?
Donc il a choisi un démon pour que le démon puisse faire...
Alors on va venir au démon. Pour l'instant on reste sur la première partie. Pierre, il devait se sentir tout petit. Lui, il était fier d'annoncer qu'il avait cru, qu'il avait connu. Mais en fait, il n'y était pour rien. C'est Dieu qui a tout fait.
Mais dans l'évangile, c'est celui qui s'est fait le plus défoncer, j'ai envie de dire. Qui a parlé beaucoup trop vite.
Ouais, impulsif. Et Jésus ne s'arrête pas là. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon.
Ça va calmer ça.
Donc, Jésus a choisi un démon.
Pour faire son plan, quoi.
De qui il parle?
De Judas.
De Judas. Disons le verset 71. Il parlait de Judas Iscariot, ou Iscariote, fils de Simon, car c'est lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Judas. C'est quelqu'un d'intéressant. Ce verset nous dit qu'il est le fils de Simon. Alors, ce n'est pas Simon-Pierre. C'est un autre Simon. Il y avait beaucoup de gens, mais il y avait aussi beaucoup de Simon. La deuxième chose que ce verset nous enseigne sur Judas, c'est qu'il était connu sous le nom de Judas Iscariote. Ce n'est pas son nom de famille.
Il y a deux prénoms.
Sur mon lieu de travail, on m'appelle Christo l'Anglais. L'anglais n'est pas mon nom de famille.
D'accord.
Au travail, on bosse souvent avec une boîte qui loue les écrans géants en LED. Et le gérant, sans blague, le gérant s'appelle Dominique l'Allemand.
Oui,
j'ai connu moi aussi.
Et l'Allemand,
c'est son nom de famille.
Et l'anglais, j'ai connu l'anglais.
Il n'est pas allemand. Il a un gars qui travaille pour lui, qui s'appelle... Bon, le nom de famille du gars qui travaille avec lui, c'est l'Espagnol.
Bon, c'est une société internationale.
J'aurais dû bosser chez lui. J'imagine la pagaille sur les chantiers. Ah, c'est vous, monsieur Lannan? Ah non, moi c'est l'anglais, lui c'est l'espagnol.
Et moi j'ai habité à côté d'un voisin qui s'appelait mon voisin.
Ouais. Moi j'ai un cousin qui est acteur. Et il m'a défendu de mettre son nom complet dans ma liste de contacts, dans mon téléphone, au cas où je perdrais mon téléphone, et il ne veut pas que son numéro soit publié. Donc, il s'appelle Cousin Oliver. Ce matin, je reçois une notification sur Facebook pourquoi quelqu'un qui s'appelle Olivier Cousin a aimé une publication sur laquelle j'ai mis un commentaire. Puis, mais c'est pas lui. Bref.
C'est son cousin.
Donc, Iscario ou Iscariote n'était pas le nom de famille de Judas. C'est un mot qui veut dire homme de Kériote. Kériote, c'est une ville judéenne. Donc, c'est Judas qui vient de Kériote et c'est le fils de Simon. Ça, c'est pour le différencier de peut-être Judas de Capernaum ou Judas de Galilée. Comme Christophe anglais, c'est pour me différencier de tous les autres Christophers dans la boîte.
Il doit y en avoir beaucoup, j'imagine.
Attends, que je compte...
Ben oui, voilà.
Et la dernière chose qu'on lit dans ce verset, c'est que c'était lui qui devait livrer Jésus. C'est comme ça que nous le connaissons. Judas le traître. Donc peut-être la semaine dernière, j'ai changé votre perception de qui était Thomas, celui qui doute. Aujourd'hui, je ne vais pas changer votre perception de Judas, le traître. J'aurais du mal. Chaque fois qu'il est mentionné dans la Bible, c'est dit celui qui a trahi Jésus. Chaque fois que nous voyons une liste des douze disciples, Pierre c'est toujours le premier, Judas c'est toujours le dernier. Et à chaque fois on lit que c'est lui qui a trahi Jésus. Mais ici Jésus nous dit, dans le verset précédent, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze, y compris Judas, et l'un de vous est un démon. Donc ce mot démon, dans le grec, c'est le mot « diabolos ». C'est un terme qui veut dire « enclin à la calomnie ». Calomnieux, quelqu'un qui accuse faussement. Donc à chaque fois que vous dites quelque chose, surtout quelque chose de faux, qui attaque la réputation ou l'honneur de quelqu'un, vous êtes un diabolos. Vous êtes un démon. Chaque fois que vous accusez quelqu'un faussement, vous êtes devenu en ce moment-là un diabolos, un démon. Je pourrais en profiter pour parler de mon ex, les fausses accusations qu'elle a proférées, mais
ça peut pas le faire. Un autre débat.
À chaque fois que quelqu'un accuse un autre faussement, il devient un diabolos, un démon. Il se range du côté du diable. Ça calme.
Mm-hmm.
Boire une boisson gazeuse à la menthe pour changer les idées.
Aussi, oui. Il n'y a pas le truc là.
Ah si.
Tout ça en même temps.
Mais on voit... Dans la vie de Pierre, si on lit Matthieu, chapitre 16, versets 21 à 23, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, Léon prit à part, se mit à reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. »
Ah, carrément. Mais Pierre, c'est le pire, je crois, de tous.
Boum ! Là, il a cassé. Hein. Mais quelques versets auparavant, Jésus avait demandé aux disciples qui il disait qu'il était. Et Pierre a répondu au Matthieu 16, verset 16, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et le verset suivant, Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux. » Dans le grec, c'est « Tu es béni. » Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Pierre recevait de l'inspiration divine, d'après Jésus. Je pense qu'on peut le croire, Jésus. Et puis 6 versets plus tard, Jésus dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. À ce moment-là, Pierre n'était plus le porte-parole des 12 disciples, il était le porte-parole de Satan lui-même.
Oui, mais c'était pour faire, c'est comme quoi, les bonnes intentions sont pavées de... Enfin bon, tu connais l'expression.
Mais
c'était Pierre, pour le bien de Jésus, en fait, il le faisait.
Pierre était en présence de Jésus.
Oui.
Quelques versets plus tôt, au verset 16, il était la porte-parole de Dieu. Et au verset 22, il était la porte-parole de Satan. Si ça peut arriver à quelqu'un qui vivait avec Jésus, ça peut nous arriver.
Non, mais carrément. Mais peut-être que Pierre ne comprenait pas,
c'est pas l'émotion
qu'il fallait cacher.
C'est par ses émotions.
On peut essayer de justifier. On peut essayer de justifier. Mais oublions ça. Prenons l'avertissement. Si ça peut arriver à quelqu'un qui vivait avec Jésus physique, ça peut nous arriver.
Mais oui, mais bien sûr.
Donc à chaque fois que vous tentez de retenir quelqu'un du plan de Dieu, à chaque fois que vous empêchez quelqu'un d'aller à l'église, chaque fois que vous empêchez quelqu'un de prier, de louer Dieu, vous devenez à ce moment-là un diabolos, le porte-parole de Satan.
Satan, c'est diabolos.
Je pensais à ça.
Hein. Ouais. Moi, je pensais à les boissons gazeuses.
Donc revenons au verset 70 de Jean chapitre 6. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Donc je dois dire ici que le choisir, c'est le choix des 12 disciples. Ça n'a rien à voir avec le choisir pour le salut. On ne va pas partir sur un débat sur l'élection et la prédestination. On en reparlera une autre fois.
Surtout qu'on est en période d'élection, là bientôt, très bientôt.
Beaucoup sont ceux qui se demandent si Jésus a choisi Judas comme disciple.
Il y a plein de débats là-dessus. Hein.
C'est clair. Hein.
Ben oui.
Il l'a choisi comme disciple.
Ben oui.
Pour faire Est-ce qu'il l'a choisi pour le salut? Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut perdre son salut? C'est un débat pour un autre moment.
Oui.
Mais comment est-ce que Judas est devenu un démon? Comment est-ce qu'il est devenu un diabolos?
Moi, j'ai entendu des prêches là-dessus où, en fait, le diable est venu dans Judas. En fait, il s'est laissé faire, en fait. Parce que déjà, il avait une tendance à être voleur. Enfin, voleur. Et Judas avait une tendance à récupérer de l'argent, comment dire, voilà quoi. Enfin, il aimait l'argent en fait, voilà. Et sachant que l'argent, c'est aussi le vice de l'argent, c'est Mammon, et ça fait partie aussi du diable. En fait, donc, il était, entre guillemets, enfin, que je dis entre guillemets, façon de parler, mais il avait été pris par le diable, quoi, en fait. Voilà, c'est ce que moi j'ai entendu des prêches là-dessus.
Alors, je t'arrête là. Tu arrêtes de pirater mon ordinateur.
Et ah, je suis désolé, excuse-moi.
Et juste, oui, on peut perdre son salut parce que c'est bien écrit dans la Bible que Jésus peut effacer notre nom du livre de vie. Donc ça veut dire que le nom.
Ça faisait partie des questions auxquelles je ne répondrai pas aujourd'hui.
Oui, ceux qui font étalage.
Revenons.
C'est ta main.
Donc ici, le choisir, c'est choisir pour le discipulat, non pas pour le salut. Donc, comment est-il devenu un diabolos? On le voit dans Luc chapitre 22, verset 3, c'est le verset dont tu as fait référence. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Voilà comment Judas est devenu un diabolos. On ne va pas s'éterniser là-dessus, mais remarquez que ce n'est pas un démon qui est entré dans Judas.
Mais, excuse-moi, je refais encore une petite parenthèse, mais on peut voir aussi dans la Genèse que Ève a parlé, en fait, quand on s'approche du Géo, quand on parle du diable, c'est-à-dire qu'elle a parlé au serpent, on peut se faire vite avoir, entre guillemets.
Oui.
Il faut qu'on fasse attention tout le temps.
Il ne faut pas sous-estimer.
De pas parler avec nous, de jamais.
Il faut savoir qu'on est plus que vainqueur, mais il ne faut pas sous-estimer l'adversaire.
C'est ça. Ouais.
Donc, Satan entra dans Judas. Satan s'est dit, c'est un travail que je ne peux pas déléguer. C'est moi qui m'en charge. Chaque passage du Nouveau Testament qui parle de démoniaque, c'est un ou plusieurs démons qui sont entrés dans quelqu'un. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est Satan lui-même qui est entré dans Judas. Donc, Judas n'était pas un vrai croyant. Comment je peux en être sûr? Parce qu'un vrai croyant ne peut pas être possédé. Silence. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'un vrai croyant est quelqu'un qui est possédé par le Saint-Esprit. Il a Dieu à l'intérieur. Colossiens chapitre 1 verset 27. Christ en vous, l'espérance de la gloire. 1 Jean chapitre 4 verset 4. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Éphésiens 3 17. Christ habite dans vos cœurs par la foi.
Stop. La référence avant c'était
Colossiens 1, 27, 1 Jean 4, 4.
Okay.
Là c'est Éphésiens 3, 17.
Okay.
On va revenir dans 1 Jean 4, on va lire les versets 15 à 18. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il demeure en lui, et lui en Dieu. En nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour, c'est-à-dire en Dieu, demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Si l'amour parfait, c'est-à-dire Dieu, bannit la crainte, et Dieu habite en nous, vous pensez qu'il y a encore de la place pour un démon?
C'est un verset énorme ça.
Non, mais t'as toujours du doute, tu peux avoir du doute. Et le doute, c'est pas Dieu.
Le doute m'habite.
Non, le doute, c'est pas un péché.
C'est comme ça. Ouais.
Les doutes, c'est le... c'est le cerveau humain qui, ouais, voilà. qui interagit avec l'esprit.
Il y aura toujours, on en aura toujours en fait.
Alors, des attaques, non ?
Donc dans ce passage, dans 1 Jean 4, celui qui déclarera publiquement que Jésus est fils de Dieu, c'est-à-dire un chrétien, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Dieu est amour, l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte vient du diable. Cet amour parfait, c'est Dieu lui-même. Il bannit non seulement la crainte, mais tout ce qui vient du diable. Pour qu'un vrai croyant soit possédé par un démon, il faudrait que le démon entre, met Jésus dehors et s'installe à sa place. C'est tout simplement impossible.
Parce que finalement, il croyait, il avait déclaré aussi que Jésus était le Messie, le Christ et le Fils de Dieu. Il avait reconnu.
Dans ma Bible, ce n'est jamais sorti de la bouche de Judas.
Il n'a jamais formulé.
Bah, c'est pas écrit en tout cas.
C'est pas écrit.
Mmh. Ouais, c'est vrai. Mais, ouais.
Alors, je ne veux pas utiliser un argument de silence.
Mmh. Ouais.
Mais.
Oui, on n'a pas eu de. Ouais.
Donc, pour moi, le fait que Satan soit entré dans Judas, ça prouve que Judas n'était pas un vrai croyant. Donc, je ne veux pas non plus partir sur une discussion la possession des démons.
Ça peut
je ne dis pas que les démons ne peuvent pas nous influencer, ils le peuvent. Je ne dis pas que les démons ne peuvent pas s'accrocher à nous, ils le peuvent.
Ouais.
Après tout, on a vu Jésus qui a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Je dis juste qu'un vrai chrétien ne peut pas être possédé par un démon. Donc, revenons à Jean 6, il faut quand même le finir un jour. Pourquoi Jésus aurait-il choisi Judas ? Jésus était omniscient. En tant que Dieu, il était omniscient. Certes, il a laissé sa divinité
à côté.
Il a limité sa divinité en venant sur terre, mais est-ce qu'il ferait une erreur ? Je ne pense pas. Donc, pourquoi a-t-il choisi Judas ? Je vais vous donner trois raisons. Premièrement, Jésus a choisi Judas pour s'identifier à nous personnellement. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si vous n'avez jamais été trahi, sachez que ça viendra un jour. Et la douleur sera plus grande plus la personne est proche.
Ouais, ça pique, ouais, ça pique.
Demandez à David, le roi d'Israël. Il avait un conseiller, un proche qui s'appelait Achitophel. Voilà un prénom qu'on n'entend plus de nos jours. Achitophel.
Achitophel.
Un chronique, chapitre 27, verset 33.
Ah.
Non, avant. Un chronique, 27, verset 33. Achitophel était conseiller du roi. Là, c'est le roi David. Achitophel venait de Guilo. 2 Samuel 15, verset 12. C'est une ville dont ils sont pas nombreux à partir là-bas en vacances. Il n'y a pas de Club Med là-bas. Mais pendant qu'Absalom offrait des sacrifices, il envoya chercher à la ville de Guilo Achitophel, le Guionite, conseiller de David. Et Achitophel donnait de bons conseils. On lit ça dans 2 Samuel 16, verset 23. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avait autant d'autorité que s'il en avait consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Alors, Absalom, c'était le fils de David. Et Absalom s'est rebellé contre son père.
Classique.
Et il a pris Achitophel dans son entourage. Regardez le conseil que Achitophel a donné à Absalom dans 2 Samuel 16, verset 21. Achitophel dit à Absalom, « Va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. » Et ce verbe « va vers », ce n'est pas uniquement un mouvement physique. Il y a beaucoup plus d'intimité dans le sens que ça. C'est « va coucher avec ».
Ah oui. J'ai pas saisi, j'ai plus. Mais n'est plus lié que lui. Hein.
Oh. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père. Le père qui était son copain. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On voit la douleur de David dans le psaume 55, versets 13 à 15. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Il a été trahi par un proche. Vous voulez en savoir un peu plus sur Achitophel, parce que je vois que tout le monde ne connaissait pas ce personnage. Il avait une petite fille. On voit ça dans 2 Samuel chapitre 23, verset 34. Eliphelet, fils fils d'un Maacathien. Bon, ça c'est pas important. Eliam, fils d'Achitophel de Gilo. Donc, Achitophel de Gilo, c'est celui dont on a parlé tout à l'heure. Son fils s'appelait Eliam. Eliam, c'est le père de...
La petite fille.
Bah oui. Bien vu. 2 Samuel 11, verset 3. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam?
Bathsheba, on l'a déjà étudié, ça, non?
Bathsheba, c'est celle...
Oui.
Avec qui David a commis
adultère. Ah oui, d'accord.
C'était la petite fille d'Achitophel. Achitophel.
Ah oui, David était avec, lui, tranquille.
Vous savez comment il est mort, cet Achitophel?
Poignardé, écartelé. Oh, carrément.
On voit bien que vous lisez tous vos Bibles. Hein. 2 Samuel 17, verset 23.
Empoisonné.
Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, cela son âme est parti pour s'en aller chez lui dans sa ville. Quelle ville?
Gilo.
Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Dans une autre, dans l'hébreu, et la plupart des autres traductions, il s'est pendu.
Oui.
Vous connaissez quelqu'un d'autre qui s'est pendu dans la Bible?
Oui. Ah, Judas. Judas.
Donc, Achitophel, proche du roi, a trahi le roi, a fini par se pendre. Ça vous rappelle quelqu'un ou pas?
Oui.
Peut-être qu'Achitophel gardait en mémoire le fait que David avait envoyé le mari de sa petite fille au front pour se faire tuer. Peut-être qu'il gardait cette rancune et lorsque l'occasion s'est présentée pour se venger, Achitophel en a profité pour trahir David. Peut-être que vous avez été trahi par quelqu'un de proche, quelqu'un en qui vous aviez confiance. Sachez que Jésus comprend ce que vous avez ressenti. Hébreux chapitre 4, verset 15. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il n'y a pas de tentation ou de sentiment que nous puissions avoir que Jésus n'a pas vécu. Quelle que soit votre douleur, Jésus peut sympathiser parce qu'il est passé par là. Même la trahison d'un proche. Et avant de quitter Achitophel, méfiez-vous quand vous êtes déçu par quelqu'un, parce que cette douleur peut vous rendre rancunier. Tout comme Achitophel, vous chercherez une occasion pour vous venger. Ne gardez pas les yeux fixés sur cette personne qui vous a trahi, déçu. Gardez les yeux sur Jésus, parce que Jésus peut comprendre ce que vous vivez. Permettez-le de vous guérir de votre cœur brisé. Lorsque vous gardez les yeux sur la personne qui vous a blessé, vous aurez les rancunes. Vous chercherez une occasion de vous venger. Est-ce que vous voulez ressembler à Achitophel ou à Jésus? Parce que si vous gardez des rancunes, si vous cherchez à vous venger, si vous cherchez à trahir celui ou celle qui vous a blessé, Satan vous ouvrira la porte. Satan ouvrira toujours la porte. Et le moyen de savoir si vous n'avez plus de rancune, c'est lorsque l'occasion se présente, la porte s'ouvre pour vous laisser trahir cette personne qui vous a blessé et vous passez. Si vous arrivez à ne pas entrer dans cette porte que Satan vous ouvre, c'est que vous êtes guéri de la blessure. Donc la première raison, Jésus a choisi Judas pour pouvoir s'identifier à nous personnellement. Deuxièmement, Jésus a choisi Judas pour nous montrer l'hypocrisie. Combien d'entre vous ont déjà entendu quelqu'un dire « Je ne vais pas à l'église, c'est vrai, c'est plein d'hypocrites. » En fait, ça n'a rien de nouveau. Il y en avait un parmi les 12. Le mot « hypocrite », ça vient du grec « hypocrites », qui veut dire « un imitateur ou un acteur ». C'est quelqu'un qui joue un rôle. Fait semblant.
Un comédien.
Ce n'est pas un vrai croyant. Dans Matthieu 13, on lit la parabole de l'ivraie et du bon grain. Dans les champs, il y a les deux. Et l'ivraie, d'où ça vient? Au verset 28, c'est un ennemi qui a planté l'ivraie. Les serviteurs demandent s'il faut arracher l'ivraie, mais le maître dit qu'il faut la laisser jusqu'à la moisson. Il y aura des hypocrites.
Des hypocrites.
Il y en aura.
Comme Zoé.
On ne peut rien faire, ce n'est pas nouveau, il faut les laisser. C'est ce que c'est l'ivraie en grec? Non. Zizanion.
Zizanie.
D'où l'expression semer la zizanie. Mais... Donc la prochaine fois que vous entendez l'expression semer la zizanie, vous dites à la personne, vous citez la Bible. Vous voulez en savoir plus? Venez chez nous dimanche. L'ivraie ressemble au bon grain, mais c'est un imitateur. Un hypocrite. Et il faut la laisser sur place. Judas jouait le rôle d'un disciple, mais ce n'était pas authentique, c'était un hypocrite. Donc la deuxième raison pour laquelle Jésus a choisi Judas, c'est pour montrer que c'est un hypocrite. Et la troisième raison d'avoir choisi Judas, c'est comme un avertissement pour nous. Lorsque Jésus annonce que l'un des disciples allait le trahir, regardez la réponse des disciples dans Matthieu 26, à partir du verset 20. Le soir étant venu, il se mit à table avec les douze. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Aucun d'entre eux n'a dit, « C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est Judas, je le savais, c'est lui !» Aucun d'entre eux ne l'a dit. Il ne le savait pas. Comment ça se fait qu'il ne savait pas que c'était Judas le traître? Parce que Judas était livré, jouant le rôle du blé, et personne n'a vu la différence. Chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Ils se mettaient eux-mêmes en doute, plutôt d'accuser Judas. Et pourquoi Judas a-t-il trahi Jésus? La réponse facile, c'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure, Satan s'est emparé de lui. Mais Jean, dans son évangile, en parle au chapitre 6. Bon, j'aimerais proposer mon avis. Alors, c'est pas clairement dit dans la Bible, ce n'est que mon opinion. Donc, n'allez pas annoncer au monde que... Lisez la Bible, formez votre propre opinion. Mais on a vu dans les passages de Jean, que nous avons lus ensemble, que le peuple voulait prendre Jésus et en faire roi. Ensuite, Jésus a commencé à parler du fait que nous devons manger sa chair et boire son sang. Et beaucoup de disciples se sont retirés et ont arrêté de suivre Jésus. Et je pense que si Judas n'avait pas été le trésorier des disciples, il serait parti à ce moment-là. Je pense que tout comme Pierre tout à l'heure avait dit dans Jean 6, 69, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu, Judas aussi avait cru est connu, mais il a cru et connu autre chose. Je pense qu'il commençait à comprendre que Jésus n'allait pas suivre l'idée contemporaine du Messie, celui qui allait rassembler le peuple et mettre les Romains dehors. Je pense qu'il était déçu par Jésus. Donc pourquoi il est resté ? Dans Jean chapitre 12, versets 4 à 6, un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, je vous ai dit, à chaque fois qu'on parle de lui, il y a cette phrase, il dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Je pense que Judas s'est dit qu'il pourrait rester parce qu'il s'enrichissait sur le dos de Jésus et les autres disciples. Il savait qu'en partant, il devrait renoncer à tout ce qu'il allait pouvoir profiter. Mais je pense qu'il était déçu par Jésus. Jésus ne répondait pas à ses besoins de la bonne façon. Et c'est tellement facile de tourner le dos à Jésus dans ces moments-là. Jésus ne m'a pas donné ce boulot. Jésus n'a pas empêché mon divorce. Jésus n'a pas empêché la mort de mon enfant. J'ai souffert, Jésus n'a rien fait, je suis déçu par Jésus. Il y a plein de gens qui pensent ces choses. Je les ai toutes pensées à un moment donné. Mais dans ces moments-là, il faut regarder la croix. Il faut regarder tout ce que Jésus a fait pour nous. Il faut se rappeler que Dieu fera ce qu'il y a de mieux pour notre vie éternelle, pas forcément ce que nous désirons tout de suite pour notre vie physique. Il faut se souvenir de Proverbes 3, 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne devenez pas un Judas, sinon vous finirez comme lui. Accroché à l'amertume, accroché aux rancunes, accroché à la cupidité et peut-être même accroché à un arbre. Je suis passé par là. Je sais de quoi je parle. Pas jusqu'au suicide. Mais l'idée m'avait traversé l'esprit. Je ne vous le cache pas. Donc la troisième raison, c'était pour un avertissement. Ne devenez pas comme Judas. Et ça, c'est quelqu'un qui passait toutes ses journées avec Jésus, physiquement. Si ça peut lui arriver, ça peut nous arriver. Donc Jésus choisit le diable. Ce n'est pas que Jésus voulait qu'un diabolos, un démon, un diable soit un disciple. Mais Judas, que Jésus a choisi, est devenu un diabolos. Quelqu'un de calomnieux qui accuse faussement. Si vous sentez que vous êtes déçu par ce que Dieu fait ou par ce que Dieu ne fait pas, je vous invite à revenir au pied de la croix pour voir jusqu'où Jésus est prêt à aller pour vous. Nous devons tous nous demander si nous sommes capables de dire avec Pierre, Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Ou est-ce que nous sommes hypocrites? Des imposteurs, des imitateurs qui sèment la zizanie? Ou peut-être que vous êtes là ce matin et ont été trahis par un Judas, par quelqu'un de proche. Si c'est vous, je vous exhorte. J'ai marqué un vite, mais c'est plus fort. Venez demander la prière pour pardonner la personne. Pour relâcher l'amertume, pour relâcher la rancune. Sinon, je peux vous le garantir, vous finirez comme les disciples que nous avons vus la dernière fois, vous vous retirerez, vous ne suivrez plus Jésus. Venez, rapprochez-vous de celui qui comprend, celui qui, quelle que soit votre émotion, quelle que soit votre tentation, votre douleur, c'est celui qui comprend. Et il peut vous aider à pardonner. Jésus, nous te remercions encore pour tout ce que tu as enduré pour nous. Le fait de quitter la présence de ton Père au paradis, pour venir sur cette terre déchue. Tu as fait tout ça pour nous. On pourrait passer toute une vie à étudier ce par quoi tu es passé, on ne comprendra pas tout à fait. Mais tout ce que nous endurons, nous, tu l'as connu. Tu es celui qui comprend, tu es celui qui compatit, tu es celui qui sympathise avec toutes nos émotions, nos frustrations, nos douleurs, nos peines. Et nous venons ce matin et nous te demandons de nous remplir de ton amour, d'enlever les rancunes que nous avons, enlever l'amertume que nous avons. Parce que Seigneur, nous voulons te ressembler.